Bienvenue sur
Tokyo Yume
sur Cooler FM 97.1, la seule émission qui traite du manga, de la pop asiatique, des jeux vidéo, des dramas, des yaoi, du hentai, du cinéma, de la cuisine, enfin bref, de plein de bonnes choses que vous allez découvrir ou redécouvrir avec nous grâce à nos chroniques, grâce à notre bonne humeur, grâce à nos blagues foireuses, enfin bref, on est là pour que vous passiez deux heures de pur bonheur et on va essayer de s'en rapprocher, même si je pense qu'au final on sera peut-être loin du compte, mais au moins si on arrive déjà à vous tirer un petit sourire, ce sera déjà pas mal quoi. Enfin bref, vous avez vu qu'on a confiance en nous ce soir. Alors donc on commence tout de suite la présentation de la team avec notre cher ami Haro, s'il vous plaît.
Toujours.
Comment il va Haro?
Il va bien. C'est bientôt la fin des vacances, mais il va bien quand même.
Ouais, mais bon, en même temps, il a hâte de reprendre aussi.
Oui, c'est ça.
Et c'est Haro l'étudiant, c'est pas Haro le feignant, quoi. Ah bah oui, le feignant, j'allais dire.
Mais ça marche aussi.
C'est la même chose, c'est juste le langage qui diffère.
Oui.
Alors, donc du coup, Haro, ce soir, tu vas nous parler d'un jeu vidéo qui est tout frais.
Exactement.
On peut dire qu'il sort des bacs, même.
Ah, carrément, oui.
Alors, il s'appelle comment?
For Honor.
For Honor.
Avec la France, avec l'accent français.
D'accord, pour l'honneur ou...
C'est ça.
D'accord.
Normalement,
traduction,
ça le fait aussi, le jeu se rappelait pour l'honneur.
Ouais, ça va, ouais.
Ça reste dans le style.
Il y a des mots français qui sont pas. Enfin, il y a des mots français qui sont un peu dégueulasses, quoi. Alors, par exemple, il y a un manga qui s'appelle Pourquoi Seiya n'a jamais pécho une seule meuf. Et il s'appelle vraiment comme ça. Au début, je crois que c'est une blague, ouais. Mais bon, au final. En même temps, en japonais, ça va être un peu bizarre de dire.
C'est un super titre de manga.
Ouais,
ça t'annonce la couleur.
En tout cas, en l'occurrence, c'est pas le cas pour notre jeu qui s'appelle For Honor, qui vient tout juste de sortir, comme on le disait. Et c'est pour ça que notre ami Haro s'est attaché à la tâche de présenter ce jeu qui a l'air absolument énorme.
Un homme à la carrure des personnages, c'est-à-dire grand, fort et musclé.
C'est ça. Il fallait quelqu'un comme ça.
Exactement.
Et tu as répondu à l'appel. Bon, on continue la présentation de la team avec notre cher ami Botan.
Coucou, s'il vous plaît. Le deuxième homme fort et viril de la soirée.
Le deuxième. J'ai hâte de voir le troisième.
Ouais.
Mais ça va être du lourd. Alors, comment va Botan?
Ça va. On profite des vacances.
On profite des vacances.
Ouais. Hein?
Ici?
Oui.
Ah d'accord.
Alors,
ok.
Donc,
je profite des vacances. Mm-hmm. Enfin, j'essaye du moins. Parce que pour le moment, c'est plutôt levé à 7h du matin tous les jours.
D'accord, ok.
Mais bon.
Ça, c'est pas trop difficile?
Non, ça va, ça passe bien.
D'accord, ok. Alors, ce soir, Antoine, tu parles de quoi?
De culture.
De culture, c'est-à-dire avec?
Je vais vous parler certainement du petit déjeuner au Japon.
Le petit déjeuner au Japon?
Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme petit déjeuner au Japon?
Ça, hein.
Voilà.
Ouais.
C'est tout un réveil surtout.
D'accord,
il a expérimenté lui-même, il y allait.
Voilà,
il allait voir les Japonais, il fait qu'est-ce que vous mangez.
Et ça, j'aime bien ça, j'aime bien ce genre de dossier. Ok, d'accord, allez, le troisième homme fort de la team.
Oui, voilà.
Viril, c'est important.
Viril, avec
bestial,
beaucoup de poils.
Bestial,
ouais.
Ah
ouais,
oui, très bestial.
Qui a du chien, j'ai envie de dire, qui a du mordant.
Ouais.
Allez, on l'a fait très fort. C'est notre cher ami Capi. Rien que le nom, tu vois, c'est viril. Capi.
Oh merci Botan, on va plus
dire. Ouais, Botan il se casse.
Désolé, je dois migrer.
Alors, comment
je
ça va Capi?
Ça va bien et toi?
Bah écoute, tranquille, les vacances, j'ai envie
Alors que certains en sont à la fin, moi j'en suis à peine au milieu. Quoi.
Ouais, comme moi.
Moi aussi.
Bah, alors,
au milieu ou à la fin?
Ce soir, toi, tu vas nous parler de quoi?
Ça va, tranquille.
Faire un petit dossier culture sur un métier assez dur, on va dire.
Ouais, c'est beau. Ouais.
On reste dans le thème de l'homme fort, bestial.
C'est ça.
Viril et dur.
Voilà, alors je vais faire un dossier sur les mangakas.
Les mangakas, ça veut dire le métier ou...
Le métier, oui.
D'accord. Parce que toi, évidemment, t'es un peu genre le mangaka de Bourgoin Jallieux, c'est ça?
On peut voir ça.
Donc voilà, tu vas nous...
Pourquoi pas dire carrément de Toussaint Chef, quoi.
Tu vas nous montrer comment on travaille alors. Comment la vie est dure pour toi.
Voilà.
Ok. Eh ben, pas de souci. On attend ça avec impatience. Et comme vous avez pu le voir, ben voilà, on aura des beaux dossiers. Vous aurez aussi un dossier manga, ça sera une petite surprise. Et évidemment, vous aurez, ben voilà, les news, l'actualité et la musique. Et donc, pour commencer la musique, j'ai décidé de vous passer un petit truc histoire de vous réveiller un peu, histoire de mettre un peu de punch. C'est le générique de IQ, la saison 1 Imagination, en toute activité sur Tokyo Yume. Allez,
très
c'est
bon
parti.
Choix.
Come on, 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 come on
c'était IQ Imagination, une chanson que j'adore avec un dessin animé que j'adore. D'ailleurs, je vous conseille vivement la saison 3 qui est absolument magistrale avec un match qui dure sur 10 épisodes. Et ben, je peux vous dire
incroyable.
Que vous... Ah mais on les voit même pas passer quoi.
Est-ce qu'il est contre Freezer le match?
Non.
Alors non, bah non, ça serait sans épisode.
Ah oui, pardon.
Au moins le temps qu'ils se battent contre les
le temps qu'il y ait les 5 minutes de jeu d'entre voilà. jeux au milieu, tu vois.
Sans compter les Senzu en plus.
Ah oui, c'est vrai.
Bon, ça rajoute du temps de jeu.
Donc du coup, c'est parti pour un peu d'actualité jeux vidéo. Allez, on va commencer cette fois-ci pour changer avec les jeux vidéo.
Soyons
et d'ailleurs,
fous, oui.
je tiens à dire aussi pour le dossier de notre cher ami Haro qu'apparemment, t'as pas le droit à l'erreur. On vient de m'envoyer un message en disant il faut pas qu'il se gourre. Ouais, c'est vrai, c'est véridique.
Je pense qu'il y a quelqu'un qui va t'écouter.
Ah oui, d'ailleurs.
Ben écoute, désolé.
Tu risques de morfler si tu te trompes.
Parfait. J'ai presque envie de me tromper exprès pour.
Voilà, il aime bien ça, il aime bien, il est joueur.
Il aime bien en prendre plein la gueule.
On commence tout d'abord avec alors la grosse news qui m'a fait rire par rapport à alors déjà un jeu qui me fait rire à la base, c'est Dragon Ball Fusion. Fusion qui sort sur 3DS. Le but, comme le nom l'indique, c'est de faire des fusions avec des personnages et créer des personnages totalement what the fuck.
Cool.
Ah ouais, non mais
Yamcha
alors les fusions, mais
Krillin.
Tu peux faire les trucs plus dégueulasses quoi.
Non, ah mais oui, ce serait génial.
Alors c'est un action RPG, mais le plus drôle, c'est que le jeu a été censuré. Et je vais vous dire en quoi. Ah attention,
c'est parce que quand tu mets deux filles ensemble, en fait, l'épée, la fusion, elle est à poil.
L'épée de Trunks a été remplacée par un bâton, et c'est véridique. Et vous le voyez avec un bâton. On sait pas. On sait pas.
Là, ils se sont dit tiens, on va mettre un bâton.
Non, mais en fait,
c'est trop violent les épées.
Tu m'aurais dit genre justement le bâton, il avait une forme chelou, donc du coup ça a été censuré. Mais non, c'est ça la censure, et c'est le bâton.
Le pire, c'est que je veux dire, tu vois plein de jeux. Notamment dans les jeux vidéo, tu prends les Dragon Quest ou autre, il y a des, en fait, des épées de partout.
Bah, tu
enfin,
prends un Call of Duty.
Mais n'importe quoi. Et t'as des, ils ont t'as censuré des flingues. L'épée, ils ont mis un bâton.
Mais ils ont quoi avec Dragon Ball en ce moment à censurer?
Ouais, j'avoue.
Temps,
bah,
je
ah,
c'est
moment,
pas,
pas
je
abuser,
crois que maintenant
plus.
C'est devenu l'ennemi de la jeunesse.
Je veux dire, t'as quoi. Des gamins de 8 ans là qui jouent à Call of Duty et ils censurent des épées sur Dragon Ball.
Donc voilà, évidemment, il y a une.
Bientôt les antennes de Piccolo.
Ils espèrent des patchs très bientôt, mais en tout cas, voilà, c'est encore de la grosse merde. Et on se demande où est-ce qu'ils vont s'arrêter.
Moi, c'est ça qui me
Est-ce que c'est Capcom qui l'a dit?
Non, c'est pas Capcom.
C'est tu vois, avec les dernières années, la tolérance, là, on est en train de lui marcher dessus, lui pisser dessus, mais littéralement.
Bah, je sais pas, hein, parce que
ça me fascine.
D'un côté, tu
pareil.
Vois, là, ils censurent plus, et d'un autre côté, t'as d'autres jeux où la violence va crescendo.
Ah oui!
Donc, en fait, c'est ça qui est
c'est
totalement paradoxal.
En fait, c'est illogique.
Et voilà. Mais la logique, tu sais, maintenant, c'est dans les rares.
Ah,
quoi.
Y a des trucs,
non, mais attention, bientôt, ils vont censurer le dubstep gun parce que la dubstep, c'est trop violent.
Ouais, bon, allez.
On va mettre du classical gun.
Attends, tu peux mettre la Chevauchée des Valkyries sur le dubstep gun.
On va vous parler d'un autre truc, c'est histoire de vous, voilà, de ramener un peu de couleur. Vous connaissez Crash Bandicoot?
Oui.
Oui. Qui était sorti à l'époque de la PlayStation.
Il va revenir.
La mascotte.
Voilà,
de Sony. Il revient dans une trilogie, donc totalement remasterisée. Avec, alors bon, évidemment, ils ont fait un comparatif des graphismes PlayStation 1 et refait sur PlayStation 4. Il n'y a pas photo, hein, même s'ils sont pas. Ils sont pas de ouf hein, sur PlayStation 4. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils sont.
Tous les deux.
C'est sûr qu'ils sont moins moches.
Mon anniversaire, il arrive.
Non, voilà.
C'est bon. PS4, ça réduit le
plus drôle quand même. Je veux dire que c'est un jeu Naughty Dog quoi. Il y a quand même eu de l'évolution entre leur Crash Bandicoot et
À la base, c'était avec la mascotte.
Ça a
de
toujours été de la grosse qualité leur jeu.
Ah non, mais c'est
bah,
quand même.
Il y en a pas eu sur PS3 et sur PS2.
Il y en a pas eu sur PS3.
PS3, les Crash Bandicoot,
tu en as
un,
c'est
Taxi
Gracie.
Ah non,
je parle de Naughty Dog, il y en a bien eu sur PlayStation 3.
Oui, il y en a eu, oui.
Et pas qu'un peu, en plus. Il y a un jeu plutôt sympa, ouais.
Il y a pas eu de Beyond Two Souls aussi.
Sinon, vous avez un RPG qui apparemment est en grosse préparation, qui sortira donc du coup sur PlayStation 4. Et donc du coup, attention, ça va vous faire plaisir parce qu'à la base, c'est Square Enix qui l'édite, mais il sera fait par une nouvelle branche de Square Enix créée par le producteur de Tales of.
Ah, d'accord. Voilà.
Donc il mise pas sur les graphismes,
mais, mise
avant
mais
tout,
sur le gameplay.
Et sur le gameplay.
Voilà. Si c'est celui qui fait les cinématiques et tout, lui il fait du méga bon boulot.
Ah, lui, c'est,
quand
c'est,
des
ah,
oui, animés,
c'est un studio d'animation ça. C'est sur Madhouse, donc non, rien à voir.
Merde. Bon, là,
mais
le gameplay
au moins,
sera bien.
Vu que c'est Madhouse, on comprend mieux pourquoi les cinématiques sont d'aussi bonne qualité.
Ah oui, bah c'est clair, de toute façon elle déchire.
Ah, en fait, faut que je fasse une annonce. Après tous les remakes qu'ils font là, si jamais sur PS4 il y a un remake de Spyro. La PS4, je l'achète dans la semaine.
Ok, eh ben,
dans la journée même, je crois.
Journée, voilà.
Et on fait le petit test donc du coup d'un jeu qui est sorti, c'est Horizon Down. Alors, Horizon Down, pour ceux qui ne connaissent pas, est un des jeux les plus attendus de la PlayStation 4. C'est une exclusivité PlayStation 4 où vous avez une sorte de fille, voilà, un peu tribal et autre. Et en fait, elle est dans un univers où on a des sortes de dinosaures.
Des dinosaures robots là.
Ouais. Et donc, du coup, il a été salué par la critique. Il a eu la note de 18 sur 20.
Ah oui.
Ah ouais. Ah, franchement, mais c'est vrai qu'il a l'air, il a l'air magnifique, hein, le jeu. Hein. Ils ont dit dans les plus une immensité de la map assez hallucinante. Vous avez une réalisation d'enfer. Vous avez un univers qui claque. Une dimension, voilà, une dimension graphique qui est énorme. La durée de vie qui est géniale. Et attention, zéro temps de chargement. Alors que vous avez parfois énormément de personnages qui gravitent dans, voilà, dans l'univers. Par contre, au niveau des moins, alors la VF qui est à chier. Bon,
ça, ah, mais il y a une VF.
Ouais. Ça, c'est souvent. Hein.
Bah ouais, bah, oh, le jeu à la base.
Dépend, hein.
Et alors attention, un manque de charisme énorme pour l'héroïne. Et, ils ont dit que là, ça fait mal au cœur, quoi. Ils ont dit qu'on préfère plus quand elle parle avec les autres, mais quand elle est, quand ça vient d'elle, ça, ça passe pas, quoi. Enfin bon, en tout cas, le jeu est très bien. Il a eu 18 sur 20.
Est-ce
et
qu'on va mettre la princesse Peach en héroïne plutôt. elle avait du charisme.
Dans le 2, peut-être dans le 2. Allez, donc, on se finit sur ça pour les quelques news jeux vidéo. Et maintenant, je vous demande justement d'avoir le dossier à suspense, le dossier sous pression, j'ai envie de dire. C'est celui de notre ami Aro qui va vous parler des 4 honneurs.
C'est ça, des 4 honneurs.
C'est ça.
Or, honneur.
Allez, c'est parti pour le site
de honneur. Donc, du coup, For Honor, c'est un jeu qui est sorti le 14 février 2017, d'où le fait que ce soit tout récent, par les bons gars de chez nous, enfin, chez nous, non, mais Ubisoft Montréal.
Montréal.
Donc, c'est jamais.
Ouais, c'est un peu une boîte française, mais à Montréal.
C'est un peu chez nous.
Bah, ils parlent notre langue, quoi.
Voilà,
en partie, au moins en moitié.
Notre dialecte.
C'est ça.
Pour ceux qui vivraient dans une grotte, Ubisoft, c'est ce qu'on fait Assassin's Creed, hein, par exemple, ou Rayman. Ouais. Toujours bon de le préciser, tu vois, ça fait gagner du temps. Ça jamais.
Et t'es sûr de pas te tromper?
Je suis sûr de pas me tromper. Du coup, le jeu, il est dispo uniquement sur Uplay sur PC. Après, si on pouvait l'avoir sur PS4, Xbox One, donc du coup pas de Steam. Désolé les gens. On va commencer par l'histoire. Mm-hmm. En gros, il y a eu un grand cataclysme qui a chamboulé tout le monde, le monde entier. Et les chevaliers, qui sont en gros en fait nous, genre Jérusalem, Deuzvult, tout ça quoi, pour que vous imaginez à quoi ressemble. Les Vikings et les samouraïs se sont retrouvés côte à côte et donc du coup bah évidemment ils se foutent sur la gueule.
Parce que quand tu mets plein de guerriers,
les chevaliers, les Vikings et les samouraïs qui se sont retrouvés dans des pays collés et donc du coup ils essayent tous de conquérir les deux autres pays qui sont pas leurs.
Ce qui est normal.
Normal.
Mmh. Non, mais c'est vrai, en plus, hein, c'est logique, oui, quoi, j'ai envie de dire.
Non, mais c'est vrai, après, quand on réfléchit, ça tombe sous le sens.
C'est ça.
Le chef d'attribut s'appelait Candice.
Ah, ça tombe encore plus.
Mais en fait, ils essayent de s'enfuir, non, c'est pas ça?
De quoi?
Bah, si c'est Candice, la chef de tribu, moi je pars. Hein.
Tu vois, ils sont tous. Elle est du côté des chevaliers, elle a écrit reprenez Jérusalem. Ouais,
imagine que l'autre chef c'est. Imagine que l'autre chef c'est Stéphane et l'autre encore c'est Angèle.
Bon, Stéphane il sera chez qui? Chez Viking. Non, parce que les Vikings ils sont grands et poilus du coup.
Ouais, mais le Kraken, ouais, c'est plutôt Viking.
Ouais, bah oui, en plus, logique. Donc c'est parfait. On a trouvé nos 3 chefs de faction.
D'accord.
Donc du coup, parmi les 3 factions, vous avez bien évidemment plein de. Enfin, plein. 4 personnages en fait par faction qui ont tous leurs particularités. Certains sont plus lourds et plus lents, d'autres plus rapides mais plus fragiles. Genre par exemple chez le chevalier, vous avez le spadassin qui est en fait une femme assassin. En gros, genre elle se bat avec 2 dagues quoi. Et elle, elle est vraiment très rapide, mais une fois que vous la. Je vais dire choper, mais ça va être dégueulasse. On va dire elle résiste pas beaucoup.
Coup,
quoi. Ouais, c'est ça. Elle meurt vite.
Une fois que tu l'as violentée.
Vous avez par exemple chez les samouraïs, il y a une des nouvelles classes qui est sortie depuis la version officielle, enfin après la bêta, qui s'appelle le Shugroki, qui est en fait un mec énorme et bien gras quoi. C'est genre
c'est un sumo,
l'ancêtre des sumo avec un.
Avec une armure de ouf.
Avec un grand bâton.
Ah d'accord.
C'est ça qui est triste. Non mais en fait on peut faire plein de connotations bizarres sur ce jeu.
Ok, c'est bien de le préciser ça.
Et oui. Il y a beaucoup de modes de jeu, on va dire. Vous avez même un mode campagne qui est en fait une histoire où vous découvrez petit à petit toutes les classes des factions qui est faisable en duo.
Et où tu les découpes toutes aussi au passage, non?
Oui. Mmh. Aussi.
C'est pas, important c'est aussi de le dire. Est-ce que les épées sont censurées? Non, pas censurées.
Non, pas censurées. Non, mais il y a des décapitations et tout, c'est pas trop censuré.
D'accord, mais c'est pas censuré ça, par contre.
Pas trop. Du coup, en mode multijoueur, parce que quand même c'est un jeu multijoueur à la base, hein, la campagne c'est bien pour l'histoire et découvrir les classes, mais après le vrai but c'est le multi.
C'est le tuto quoi.
En gros, vous avez la dominion, c'est-à-dire vous avez, enfin domination en français, on appelle ça. Vous avez 3 points à capturer sur une carte, plus vous capturez longtemps les points, plus vous gagnez de points. Tuer les héros ennemis, ça vous en fait rapporter aussi, et en gros ça se termine ou à la fin du timer, mais ça arrive quasiment jamais. Ou quand vous arrivez à 1000 points, c'est-à-dire en fait les ennemis sont en déroute, ils ne peuvent plus réapparaître, et là vous les achevez, vous avez gagné.
D'accord.
Du coup, c'est à la fois stratégique et tout. Et évidemment, en fait, si vous recapturez un point vous faites perdre des points aux ennemis, donc du coup vous n'êtes plus en déroute et vous pouvez de nouveau ressusciter. D'accord. Et ainsi de suite. En gros, c'est la première arrivée à 1000 points généralement qui gagne. Vous avez des duels, donc un contre un. Mais, oui. Combat en 2 contre 2, 4 contre 4. J'ai pas trouvé de 3 contre 3, c'est bizarre. Et sinon, vous avez un mode qui s'appelle Escarmouche, c'est de la domination, mais sans les points capturés. C'est juste
d'accord, ouais, donc
du gros bourrinage.
C'est juste, oui, oui pour.
C'est du match à mort.
Exactement.
C'est pour bien
toi,
se défouler.
Toi, t'as une tête,
quoi.
Je vais la couper.
Tout à fait. Je tiens à préciser que les persos ne sont pas besoin de les acheter pour jouer avec. En fait, vous pouvez jouer avec tous les persos directement en multi.
Tu veux dire que c'est pas de DLC,
c'est ça?
Ah oui.
Si, il y a des DLC, enfin, il y a le Season Pass, quoi. Donc, voilà.
Ah, de, pour les jeux
pour les persos. Ouais.
Ah, on m'a dit quand même qu'il y avait pas mal de trucs à acheter. Hein,
et non, mais ça dépend. Attends, je vais expliquer. Les persos, ils sont pas achetés. Donc, genre, en gros, même si vous l'achetez pas, vous pouvez jouer avec dans n'importe quel mode. Le fait de les acheter, en fait, ça permet de les personnaliser. Genre, modifier leur casque, leurs épées, leurs trucs comme ça. Et ça. Par exemple, une épée est mieux qu'une autre. Genre, ça va, elle va avoir moins de vitesse, mais plus de dégâts, ce genre de truc. Et les capacités aussi. Sauf que les capacités, les équipements améliorés et tout, c'est valable uniquement en domination. Parce que vous faites en 1 contre 1, c'est du skill pur et dur, quoi.
D'accord,
ça
ouais.
Ça ne change
rien. C'est tout mis à niveau, et heureusement d'ailleurs.
Bah oui, tant mieux.
Ouais.
Après, le jeu, il faudrait voir ça un peu comme un jeu de combat, je pense. Parce que si vous êtes bon au jeu de combat, vous pouvez être bon à ce jeu-là. Parce que chaque perso a ses propres combos, ses enchaînements, du coup.
Après, ouais, non, mais c'est un petit peu différent aussi. Ça se ressemble, enfin, en tout cas, d'aspect, ça ressemble beaucoup à Dark Souls, par exemple. Puisque c'est du troisième personne. Et,
bah, en même temps, un jeu de combat, t'es rarement la première personne.
Oui, mais c'est rarement aussi de la 3D comme ça. Ça n'a pas de système de visée.
Ça, par contre, oui. Vous avez, donc, comme je dis, système de combo, de parade, d'esquive, de chop. Et petit détail aussi important. Genre les chutes dans ce jeu c'est mortel. Vous tombez genre je sais pas d'une échelle de 3 mètres, vous êtes sûr vous crevez à la fin.
Ah bon, de 3 mètres.
Non mais genre imagine.
Bah tombe de 3 mètres avec une armure de 50 kilos.
Ouais. Alors c'est ça le truc, c'est en fait vous dites oh, c'est ridicule. Sauf que déjà vous tombez en vrai du haut d'une échelle, vous atterrissez en bas.
Vous êtes pas bien.
Vous êtes plutôt dans le mal. Mais eux avec une armure de plate et tout, ils se relèvent pas les gars. Tu sais les chevaliers, faut savoir s'ils étaient au sol, ils se relevaient plus. Hein. L'armure était trop lourde.
Ils connaissaient pas l'époque des chevaliers.
Ouais bah oui, ils tombaient pas. Les échelles ça tenait debout, c'était du solide à l'époque. Mais comme on en fait plus.
Voilà, c'était connu pour ça ouais.
Ah bah voilà, sinon ça peut être un bon aspect stratégique quoi. Vous faites tomber vos adversaires et c'est bon.
D'accord, ok. Qu'est-ce que tu peux me dire alors encore sur le jeu?
Il est très 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 beau.
D'accord.
Franchement, graphiquement ouais. C'est impeccable, mais c'est les décors ils sont ultra réalistes, les maps elles sont super belles, on s'y croit vraiment dans des vrais champs de bataille, dans des châteaux et tout. C'est très bah en fait on reconnaît tout le style, si on est viking, samouraï ou chevalier.
Bah j'ai envie de dire un peu comme un Tales of quoi.
Exactement. Tout à fait ça. Dans un Tales of, on reconnaît tout de suite où on est.
Voilà.
À l'époque de la PS2.
C'est ça. Je me demande s'il y en a, tu sais, qui font l'erreur, tu sais, de quand ils ont le jeu, ils le mettent dans la PlayStation 2 pour voir si c'est la bonne console.
Ouais, c'est possible. Ouais, non, c'est possible, je pense. Ou alors quand ils voient la cinématique, ils disent, ouais, il va être trop beau. Et en fait, non, pas du tout.
Mais c'est ça.
Mais bon.
Ouais, non, graphiquement, le jeu, il casse des barres.
D'accord,
ok. Magnifique. Les persos, ils sont tous très bien faits, détaillés et tout. Chaque classe est cool à jouer.
Mais ça, c'est le genre de jeu sans fin, quoi. Une fois que tu trouves les bonnes personnes avec qui jouer,
en même temps, c'est ça. Je veux dire, c'est comme tous les jeux du moment, Overwatch, LOL, enfin tous les jeux de multijoueurs. Ouais, tous les MMO, c'est comme ça.
C'est triste.
À part que lui, il est quand même différent. J'avais entendu au début, ouais, c'est encore un MOBA.
Non, pas vraiment. Oui, enfin, oui et non.
Non.
Bah, si, un MOBA, en fait, c'est juste un jeu en arène. Hein. C'est un multijoueur en arène, en fait.
Ouais, mais bon.
Du coup, c'est techniquement, oui, mais pas un MOBA classique, quoi.
En fait, au gameplay, moi je rapproche plus ça d'un jeu de combat en multijoueur qu'un.
Oui, non, mais ça, j'ai pas le contraire, mais un MOBA c'est vraiment ça quoi, c'est juste un jeu multijoueur en arène. Donc techniquement, tu te tabasses la gueule dans une arène, c'est ça, donc l'objectif ce serait un MOBA un peu, tu vois.
Vu comme ça, c'est pas faux.
Ok, d'accord. Bon, dans tous les cas, ça reste un bon jeu alors.
Oui.
Alors donc, rappelle-nous les bons points pour l'acheter, c'est quoi?
Il est très beau. Il y a les persos, ils sont cool.
D'accord.
Il y a plein de modes de jeu.
Ok.
Vous avez des vikings et des samouraïs qui se battent, et des chevaliers aussi, c'est important de les préciser.
D'accord. Et toi, t'y joues?
Oui.
Voilà.
Les hommes ils sont virils et les femmes aussi d'ailleurs sont,
très viriles.
Très
ça tombe bien parce que je suis sexuellement attiré.
Ouais. Non mais genre elles ont des bras, elles vous mettent une tarte, en vrai ça vous arrache la tête.
Ça, j'ai
la taille de tes cuisses quoi.
C'est un peu ça.
Eh bah, allez, vendu.
Tu te demandes si c'est des femmes ou pas des fois.
Vendu, j'achète. Ok, donc alors si tu veux lui mettre une note.
Si je réfléchis là, j'hésite. Entre 18 ou 19.
Bon, on va dire 18.
Ah, 19, non, on va dire 19 quand même.
19
peut pas 20, mais okay. Parce qu'il n'y a pas encore assez de contenu.
Franchement, c'est une bonne note.
Très,
allez, on l'applaudit très fort,
s'il vous plaît. Merci.
Et je sais pas si t'as écouté un peu, mais j'ai mis la chanson épique là. Franchement, derrière, c'est pas nickel là.
Il fallait.
C'est tiré d'un film, ça s'appelle Tu ne
tueras point.
Tu tueras point,
ouais. Ouais, c'est ça. Voilà,
une petite dédicace, j'ai envie de dire. À un mec, un Pierre-Yves qui est parti faire la guerre il y a pas longtemps.
Ouais.
Voilà, paix à son âme, j'espère que. J'espère que ça ira.
J'espère qu'il reviendra des croisades.
On va dire ça. Ouais. Bon, allez, vous êtes toujours sur Cool FM pour l'émission TQU. Mais maintenant, on va passer à un genre totalement différent. C'est un peu la guerre, j'ai envie de dire, mais du côté des mangas, ou du moins, c'est un boulot pas facile.
Ah,
avec...
d'accord.
Ah, voilà. J'avais pas compris.
Bah, en même temps, la guerre, oui. Oui, c'est vrai, quelque part, ouais. Oui. C'est...
Ah, bah oui. Eh, attention, là on parle au mangaka de Bougain-Jailleux là.
Oui.
De
Saint-Chef. Le meilleur.
C'est pas un Rocky quand même.
C'est ça. La légende.
La légende. Ah oui, le maître.
C'est comme ça qu'on
The Master le à vrai. L'international.
Ouais, ouais, c'est
sûr. Bon, allez, c'est parti pour le dossier de Capi qui va vous parler des.
Mangaka.
Eh bah, allez, c'est parti.
Pourquoi j'ai écrit ces. Ouais.
Je sais pas pourquoi t'as fait ça, mais c'était magnifique.
C'était magnifiquement dégueulasse. Voilà. Ah oui, attendez, un petit bonjour à Kulodo d'ailleurs qui est arrivé.
Voilà. Salut.
Voilà. Avec son train de carton, j'ai envie de dire.
Voilà, c'est ça.
Spécialité. Et on a aussi l'homme des croisades.
Qui est arrivé.
Je m'en rappelle, c'était quoi son surnom?
Fils de Dieu ou un truc du genre, non?
Hein?
C'était non. Pas le fils de Dieu.
C'était pas les gouttes de Dieu.
En tout cas, il y avait Dieu dedans.
On va l'appeler les gouttes de Dieu alors.
Celui-là parce le que... fils de Dieu, il est bien comme ça. Ouais.
Le fils de Dieu? Allez, on l'appellera les gouttes de Dieu alors. Alors, ils sont venus exprès pour entendre, parce que eux, évidemment, leur but dans la vie, ce serait d'éventuellement devenir mangaka. Et c'est pour ça que, voilà, ils ont entendu parler du dossier de Capi, et ils se sont dit, c'est peut-être le moment d'apprendre des choses, quoi. Allez, vas-y, c'est parti pour Capi. Ça fait un peu genre, Capi, conseiller d'orientation, quoi.
Alors, vous voulez devenir mangaka? Non. Voilà.
Alors,
alors bon, pour ceux qui savent pas, un mangaka, c'est un auteur de manga.
Oh, super.
J'ai
et pour ceux qui savent pas ce que c'était une radio, c'est et ben, c'est.
Vous voilà. Savez pas, un auteur, c'est un
le pire, c'est que, j'ai vraiment cherché la définition et bah, c'est
peintre,
ça quoi. Il y a rien de plus à ajouter quoi. Bon.
D'accord, mais c'est la fin du dossier.
voilà. tu aimes les mangas, tu aimes dessiner, vas-y.
Bah oui.
Lance-toi.
C'est une bonne définition.
Mais au sens large, c'est surtout on compte autant les dessinateurs que les scénaristes. Donc voilà.
D'accord, OK.
Par exemple, un scénariste qui ne dessine pas, voilà, au Japon, c'est Tsugumi
Oba.
C'est quand
même un mangaka alors.
Voilà, Tsugumi Oba par exemple, le scénariste de Death Note, c'est quand même un manga. On considère que c'est un mangaka. Voilà.
D'accord, ok. Il s'appelle comment t'as dit?
Tsugumi Oba.
Voilà, c'est
je
ça.
Crois.
Ouais, je vais vérifier.
On va l'appeler Oba.
Voilà. Ok.
Bon, plus généralement, c'est un métier d'artiste, on va dire. Ça fait un peu métier
d'artiste. C'est pour ça que tu t'es concerné, quoi.
Arrête. <D'accord. rire>
Métier d'artiste.
Métier d'artiste.
Les bons
un métier où tu peux être éventuellement à la dèche.
C'est un peu ouais,
ça,
c'est
un problème. Non, mais tu rigoles, mais. Enfin, au Japon, bon, on viendra après, mais. C'est pas très loin. C'est
et
un métier
France,
artistique.
On va s'en parler.
C'est un métier artistique, mais aussi, on va dire.
Oh, c'est pas un métier.
Quasi presque industriel, parce que on verra après qu'ils ont un rythme de travail et une. Disons que les codes du métier sont quand même assez bien cadrés.
Mm-hmm.
Donc du coup là je vais aussi quand on parle de mangaka généralement on parle des dessinateurs et de toute façon la plupart des mangakas sont à la fois dessinateurs et scénaristes.
D'accord,
enfin
okay.
La plupart en tout cas les mangakas les plus connus
les vrais
soient,
quoi
les... oui
d'accord
voilà du coup dont les mangaka, j'allais dire, c'est apparu avec les mangas, non, sans déconner.
Le mec se fout de la gueule de son propre dossier. Ah,
ça, c'est pas mal ça. T'as les gens qui prennent l'ironie.
Arrête, c'est bon.
Alors,
du coup, faut savoir que donc les mangaka au Japon, juste 2-3 chiffres pour commencer, il y en a à peu près 5000 qui sont édités par année.
D'accord, ok.
Donc à éditer en format dans les tomes reliés. Alors que en France, en comptant juste les dessinateurs de BD, enfin pas en France mais dans en France en Belgique en fait dans les pays francophones, en Europe, juste en comptant les auteurs de BD, ils sont à peu près 1500.
Ok. D'accord.
Donc y a vraiment beaucoup de mangaka au Japon comparé à des auteurs de BD chez nous.
Oui.
Ensuite, ce qu'il faut savoir sur le métier, c'est que c'est un point qui revient souvent, mais c'est que c'est un métier. On est mangaka un peu par chance. C'est très difficile de devenir mangaka. Tout le monde le sait. Il faut avoir beaucoup de talent. Faut avoir
un niveau au moins un mètre, quoi, j'ai envie de dire.
Voilà. Faut s'appeler, oui, exactement.
Faut s'appeler sensei.
Et surtout, il faut beaucoup de travail parce que la plupart des mangaka au Japon ont un rythme de travail qui est assez dingue en fait. Ils doivent fournir le rythme, on va dire, normal pour un mangaka, c'est à peu près 20 pages par semaine. Ce qui je sais pas si vous en présentez, mais c'est énorme. c'est un truc de fou. Mais après, ça dépend quand même des mangaka et de la cible éditorialiste de leur œuvre, on va dire. Vous savez, si c'est un shonen qu'ils font ou un seinen, ça dépend.
Ouais. 20 pages de hentai, faut
ah oui, attends, il faut avoir l'inspiration. Voilà. Hein. Le scénario, il s'écrit pas tout seul pour la
le scénario, oui, c'est sûr.
Tout le monde sait que c'est ce qu'il y a de plus important.
Et oui, mais oui. Évidemment, enfin, je veux dire, voilà.
C'est pour ça. Entre un bon hentai.
Donc voilà, ouais. Par exemple, c'est pour ça, vu que les shonen, c'est des séries qui sont assez formatées et qui sont très populaires, on demande aux mangaka de les produire de façon régulière et continue. Donc voilà, c'est là où on demande les 20 pages par semaine. Mais par exemple, dans les magazines seinen, c'est plus fréquent de croiser des mangaka qui travaillent avec des rythmes un peu moins soutenus. Quand je dis un peu moins soutenus, c'est-à-dire qu'on leur demande soit de un chapitre toutes les deux semaines, voire un chapitre tous les mois. Mais alors dans ce cas-là, par exemple, c'est comme dans l'Attaque des Titans, vous savez, qui fournit un chapitre de 40 pages tous les mois.
Oui, bah du coup c'est un peu moins violent.
C'est
quand
un
même,
peu moins violent, mais ça reste ça reste énorme parce
ça
que
ça fait un peu plus d'une page par jour. C'est
voilà. Ensuite, généralement les mangaka au Japon, alors c'est très rare qu'ils commencent directement mangaka. Ils commencent généralement en étant dans une maison d'édition, en assistant d'autres mangaka, parce que ça, vous savez, ça fonctionne.
Ça fait de l'expérience surtout.
Voilà, ça fonctionne aussi par le fait qu'un mangaka
ne peut pas tout dessiner tout seul.
Les, voilà, pour les grosses séries, ce qui est un peu populaire, les mangaka ont souvent des assistants. Non,
même
un
même
ou deux.
Dans ce qui est populaire. Hein. À partir du moment où tu dois faire un rythme hebdomadaire.
Pas forcément, ça dépend. Je sais qu'il y a des. Je sais que je crois dans le monde du shoujo, ils sont pas forcément.
Oui,
mais ça dépend, mais c'est pour ça dépend des mangas. Mais c'est vrai qu'il y a
le shoujo là. Macho.
Dans le monde du shoujo, faut pas
macho man.
Sachant que c'est les mangaka eux-mêmes qui payent leurs assistants.
Oui, c'est ça.
Et
un bras.
Du coup, bah en fait, on leur file beaucoup d'argent, mais du coup, si vous avez pas un manga qui est très vendu, bah vous n'arriverez pas à vous payer des assistants.
En gros, acheter les figurines, acheter les mangas, les
la totale, bah oui. Non, voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, ils reçoivent une somme à la base qui est vraiment hallucinante. Même eux, en général, ils s'y attendent pas. Hein.
Ouais, mais voilà, comme ils doivent tout compter, payer derrière le studio, voilà. La
ouais, bah, en gros, quand t'es mangaka, t'es chef d'entreprise, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Oui, mais justement, mon deuxième point, c'est qu'ils sont à moitié indépendants. C'est-à-dire que, oui, ils sont indépendants vis-à-vis de ce qu'ils font, mais quand même, ils ont toujours le regard de l'éditeur. C'est-à-dire qu'ils travaillent toujours avec l'éditeur.
C'est normal.
Ouais, mais c'est pas exactement pareil que chez nous, par exemple. Où je trouve qu'un auteur de BD en Europe est quand même relativement libre. Il arrive à. C'est pas qu'il. Il propose un projet, l'éditeur l'accepte ou pas, et après il laisse l'éditeur de BD faire. Là, souvent au Japon, les auteurs de manga, enfin les mangakas, sont toujours. Tout ce qu'ils font est suivi par leur éditeur, et leur éditeur approuve à chaque fois.
Ça, c'est surtout.
Ils discutent, il y a beaucoup de discussions.
Aux mangakas qui sortent, tu vois, des chapitres par semaine. Où là justement en fait ils sont obligés de suivre on va dire de façon drastique l'avancée au niveau de l'histoire. Mais par
oui,
contre
ça doit,
voilà,
ça doit surtout sur le.
En France ils vont plus finir par exemple tu vois leur BD de une cinquantaine de pages.
Oui, mais c'est, et après, c'est vrai que c'est un rythme aussi de travail qui c'est totalement c'est vrai que c'est totalement différent donc voilà.
Voilà, bah après toi t'es mangaka à Bourgoin-Jallieu, c'est vrai que
c'est
un rythme très soutenu quoi.
Bah, ouais, 25 pages, bon
par
c'est
jour.
Dur mais normalement on prend le pli quoi. Voilà.
Ah mais c'est bien.
Ah, c'est la tout seul avec un petit stylo
pendant les cours.
D'accord.
Non, pas pendant les cours, justement.
Ah bah
les
si,
cours et à côté.
Ah,
voilà,
pardon, excuse-moi, le soir.
Ah, mais non, sinon, je pourrais faire deux fois plus.
Ah oui, pardon, excuse-moi, je t'ai sous-estimé.
Donc voilà. Tu sais très bien que c'est pas vrai.
Il a eu un doute quand même.
Il a eu un doute. Bah, c'est gentil, hein, mais quand même.
Et tout en couleur, bien sûr.
Bah non, c'est vrai, du manga quand même.
Ah oui, pardon.
Mais il y a toujours les petites, tu sais, les 2-3 premières pages.
Ah oui, oui, ouais, voilà, c'est ça. Les pages centrales.
Qu'est-ce que tu peux nous dire encore?
J'avais vu que le salaire moyen d'un mangaka, des mangaka en général, c'est 24 000 euros par an.
Ça va.
Donc ça fait 2000 euros par mois.
Alors après, ça dépend
après, ouais, justement, bah, c'est moyen, mais sur tous les mangaka. Du coup, il y en a. d'autres qui gagnent moins, d'autres qui gagnent vraiment beaucoup plus.
Genre Eiichiro Oda, je pense qu'il gagne bien sa vie, tu vois.
Par exemple.
Oui, mais justement, Eiichiro Oda, le problème, c'est qu'il gagne peut-être beaucoup de fric, mais il le dépense quand?
Ouais.
Bah.
Dans ses assistants.
S'il arrive à terminer son manga à jour après, mais sinon.
Il a dit pendant 15 ans à peu près, il allait continuer là. Il a dit, il aurait pu en faire encore 15 de plus après, mais ce sera trop long.
Ouais, je pense qu'on devrait l'inciter à investir dans des fondations par exemple. La fondation Un Toit pour Angèle. Celle-là, voilà. En plus, elle a besoin d'être très régulièrement.
Elle a besoin d'argent régulièrement.
Besoin d'argent régulièrement.
Des dons réguliers.
Alors, faut
argent ou carton.
Alors, faut savoir que au Japon. Vraiment, pour ceux qui voudraient devenir mangaka en France, bah
c'est pire.
Hyper compliqué. Enfin, je veux dire, déjà qu'au Japon, disons que on peut devenir mangaka par exemple, enfin devenir mangaka, on peut déjà prouver un peu ce qu'on sait faire par exemple au travers des concours.
Ouais, et puis aussi des one-shots.
Des one-shots, des concours voilà, que proposent assez régulièrement les maisons d'édition. Ou essayer petit à petit de rentrer dans une maison, voilà. Alors, en France, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment.
De rentrer dans une maison.
Non, en France, c'est le même. en France, c'est le même système d'édition que pour les romans et les livres, etc. C'est,
voilà,
il
faut, coup,
faire
en fait,
un, faut faire un truc.
Voilà, par exemple, si vous avez lu Bakuman, c'est pas comme
manga.
Ça. C'est pas comme ça en France.
C'est pas comme ça, ouais.
C'est pas du tout comme ça. Il faut présenter, je crois, il me semble, il faut présenter, si vous voulez, une espèce de dossier avec ce que vous voulez faire,
le
résumé détaillé, des concepts art de
vos trucs, aussi.
Et des planches finalisées.
Ouais. Tu dois avoir tout un projet finalisé.
Et en plus, avec ça, si vous voulez, la maison d'édition, elle va pas vous répondre tout de suite.
Y a 600 dossiers.
Et si elle vous répond, c'est pas forcément positif. Et surtout, si vous voulez faire du manga, ce qui est. Il y a très peu de maisons d'édition qui proposent de faire du manga
En France. Ouais.
Mmh. Bah, il y a Ankama.
Mais c'est à peu près les seules au final.
Et après, t'as aussi les éditions Kiyun qui ont fait un concours en fait l'année dernière pour lancer un jeune mangaka à Rémi Lopez, je crois, un truc comme ça.
Ouais.
On attend de voir ce que
ça me parle.
Voilà, histoire d'un homme, histoire d'amour entre un homme
et. Un homme et.
Et son animalité.
Ouais, bien sûr.
Et sa bestialité, on va dire.
C'est ça. Quelque chose de très introspectif.
Ah, voilà, c'est ça.
Qu'est-ce que tu veux dire encore?
Donc voilà, c'est pas pareil, donc c'est très difficile.
Du coup, c'est pas
du coup,
pareil.
C'est différent.
Du coup,
différent,
en gros, c'est
mais
différent,
voilà.
Quoi.
Donc, si vous voulez devenir mangaka, comme Kurudo veut devenir mangaka,
bien sûr.
D'accord.
Déjà, tu dessines mieux que Eiichiro Oda, donc
c'est
peut-être
vrai.
Que tu parviens bien.
Ouais, il avait dit.
Eiichiro Oda,
c'était pas exceptionnel. Ouais.
Du coup, on peut dire que
sur les premiers tomes,
ça, mais après, Eiichiro Oda, c'est pas que du dessin. Donc,
Eiichiro Oda, c'est juste un univers étendu sur lequel tu pourrais faire 46 spin-offs et tous seraient justifiables.
Mais
sinon, ça va quoi.
Ouais, d'accord.
Kurudo, il pourrait faire bien mieux.
Je pense qu'à part le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas quelque chose de plus large que One Piece.
T'as encore quelque chose à nous dire sur ce métier ou pas?
Je suis en train de regarder.
Y a pas quelque chose sur les mangaka hentai? Comment ils font leur recherche?
Ah, ça, c'est bien, peut-être. En vrai, je pense pas. Il faudrait faire un dossier entier dessus.
Quand j'ai fait le dossier sur les seiyuu, du coup, c'est un petit peu le même problème que pour les seiyuu. En gros, c'est ceux qui arrivent pas à vivre de leur métier. Ils sont forcés à dessiner et à faire des manga hentai, mais c'est extrêmement mal vu, donc ils prennent des pseudonymes. Et vous savez jamais qui c'est. Par exemple, quoi. Mais en gros, ils peuvent absolument pas dire leur vrai nom et expliquer ce qu'ils font en fait. Donc ils font ça à limite en cachette, etc. Donc c'est très précaire.
D'accord.
C'est vraiment pour bouffer, quoi.
De manière générale, c'est vrai qu'au Japon encore, on peut vivre de la BD. Bon, là-bas, la BD c'est le manga, mais chez nous c'est presque. Je sais qu'il y a beaucoup, la plupart des auteurs de BD sont en galère, sont dans des situations très précaires. Du coup. C'est vrai que ça, c'est une des différences aussi. Mais même si vous voulez pas faire du manga, c'est déjà que c'est hyper chaud de base. Alors, essayer de faire du manga qui est un peu. Ça paraît un peu inutile à. Ça commence à se développer, c'est vrai. Comme tu l'as dit, là, le concours qu'avait lancé Kiyun, ça permet de voir un peu qu'ils essayent d'avoir un intérêt.
Aussi.
Il y a aussi une école internationale du manga.
Ouais, mais alors, est-ce qu'elle est vraiment reconnue? Non. C'est-à-dire que
le truc, c'est que
est-ce qu'elle te dit, est-ce que tu vas en vendre emploi derrière? Non, clairement pas.
Clairement pas.
Tu vas finir dessinateur, mais pas pour des mangas. Quoi.
Là, à mon avis, ils misent plus un peu sur les jeunes otaku là, qui ont des parents un peu friqués.
C'est exactement ça.
Tu vois, le truc, c'est que c'est typiquement le genre de métier pour lequel t'as pas vraiment de formation pour
tu peux prendre des formations, mais tu vas prendre des cours de dessin, du scénario à la rigueur, des choses comme ça. Donc c'est des notions de base.
T'as pas genre bac plus 2 mangaka, genre.
T'imagines
la licence mangaka.
Un jour, on découvre que genre Eiichiro Oda, c'est un français. Alors, ça serait pas énorme.
Ouais, mais je me demande
Maurice, si... Maurice, l'auteur de One Piece, quoi?
C'est inventé un nom.
Ce serait génial.
Ah, bah oui. Bah, déjà, on sait que c'est un dénommé Pierre-Yves qui est à l'origine du fameux manga Bible Black. Qui est un mélange de manga et de religion. Et que tout le monde connaît. Connu, connu à l'international, ouais. Ah, tu vois,
là, là, c'est vraiment voilà. Connu à l'international.
Alors qu'il avait un pseudo, hein. Heureusement qu'on a découvert. Hein. On a bien enquêté à ce moment-là.
Donc voilà. J'allais juste finir aussi sur le fait que aujourd'hui, il y a d'autres moyens qui existent quand même. Pour une petite lueur d'espoir, il y a d'autres moyens qui existent pour se faire éditer. Bah, c'est de passer par internet. Mm-hmm. J'allais dire de s'éditer soi-même.
Bah, il y a One qui a fait un peu comme ça. Hein.
Ouais, voilà, justement, par exemple, c'est le meilleur exemple.
Ouais, ouais, c'est ça.
Mais même pas, par exemple. Faut savoir
c'est
que,
peut-être le seul aussi en vrai qui a aussi bien marché.
Ah ouais, qui a aussi bien marché en tout cas.
Ouais, mais par exemple, bah, le manga One Punch Man, même ouais. Repris par
Murata,
est publié sur internet.
Oui.
Il est pré-publié sur internet. Oui. Du coup, voilà,
c'est
ça
des scans gratuits. Ouais.
Ça du coup, ça passe pas forcément.
Ça facilite la diffusion et ouais, et puis ça fait parler de lui et ça lui a facilité aussi son adaptation en animé. Il faut voir que à partir du moment où il y a eu le boom, il s'est fait adapter très rapidement comparé à beaucoup d'autres mangas. Il a beaucoup marché en webcomic et il restait au début comme un webcomic. T'as des webcomics qui sont très connus et qui font pas d'adaptation ni en volume relié ni en animé. Par exemple, Tower of God.
Il reste à la dèche.
Voilà. Oui, bah, c'est ça en fait. C'est notamment les mangas, c'est leur problème, c'est qu'ils sont jamais édités dans aucun pays.
Manga chinois.
Non, c'est manga coréen pour le coup. Oui. Mais ça se dit la même façon en fait. Mais
ouais, mais il est plus chinois que coréen.
Je suis plus coréen que chinois plutôt. En tout cas, en manga.
Bon, alors. D'accord. Il n'y a rien chose à dire ou pas?
Oui, alors deux mangas qui parlent des mangaka et du métier, Bakuman et Rin.
D'accord. Voilà. D'accord.
Qui sont lectures que je vous conseille.
Ok, pas de soucis. Alors si tu veux mettre une note au mangaka alors?
Je sais pas.
Mais l'air des encouragements déjà.
Courage sur 20.
Courage sur 20. Ok, d'accord.
C'est pas ça de quelle note que t'as les encouragements au lycée.
Ah, allez, franchement, évidemment, il faut un métier de ouf. Hein. Maintenant, tout ce qu'on espère, c'est que Eiichiro Oda, par exemple, ne mourra pas. Qui continuera à prendre ses médicaments correctement. Voilà.
Il vaut mieux je pense que si lui meurt avant de finir son œuvre, il y a un cataclysme qui va se passer.
Une vague de suicides.
Ça va être du lourd. Allez, on applaudit Capi pour son dossier. Voilà. Et n'oubliez pas de lire son livre dès qu'il sortira. Voilà. Il s'appelle comment? T'as déjà un titre?
Ah, je peux pas.
Je suis bestial.
I am bestial. Alors bon, maintenant, je vous propose d'attaquer tout de suite avec un autre dossier, une exclusivité couleur FM pour l'émission de Kiyumi. C'est notre ami, donc du coup, Botan, qui va vous parler de quelque chose qui nous intéresse tous.
Voilà.
On passe tous par ça. Certains en profitent même plus que d'autres.
Ouais.
Certains grattent même
beaucoup,
chez les autres.
Ouais.
Voilà. Tu vas nous parler de.
Du petit déjeuner.
Voilà, c'est ça.
Donc,
Vas-y, c'est parti.
Le petit déjeuner au Japon. Donc, déjà, il faut savoir qu'il y a deux types de petits déjeuners. Un, comme dans beaucoup de pays en fait que vous pouvez visiter, vous avez les petits déjeuners traditionnels et les petits déjeuners à l'occidental. Parce que oui, on s'exporte partout. Donc, ce qu'on appelle les petits déjeuners à l'occidental, c'est globalement les petits déjeuners à l'américaine. Hein. Rêvez pas, c'est pas les petits déjeuners français à base de croissants et pain au chocolat. Ça existe qu'en France. Voilà, et ça s'appelle des petits déjeuners français.
Mais c'est les meilleurs.
Oui, mais on les trouve qu'ici pour le coup. Aussi étonnant que ça puisse paraître, parce que tu dis qu'une viennoiserie ou quoi, voilà, il y a qu'en France que tu manges du sucré avec du sucré sur du sucré dans du sucré. Voilà. Voilà, c'est un petit peu ça. Ouais, c'est que du sucre. Donc voilà. Donc le petit déjeuner, on va parler du petit déjeuner traditionnel au Japon. Donc déjà, il est réservé la plupart du temps au week-end et aux jours fériés. Donc au jour où on a pas mal de temps libre, parce qu'il est assez long à préparer. Et c'est pas le petit déjeuner qui serait préféré par exemple des enfants, des jeunes japonais. C'est pas ce qu'ils préfèrent. Ils préfèrent plus les petits déjeuners à l'occidental, etc. Mais donc c'est un petit déjeuner qui s'apparenterait à ce que nous on aurait à un déjeuner. Donc c'est-à-dire que c'est souvent du riz, comme dans énormément de plats asiatiques de toute manière. Dans énormément de repas asiatiques, vous avez du riz. C'est pour ça qu'au Japon, gohan qui veut dire à la fois repas et riz, parce que c'est un incontournable des repas. Et donc vous avez plein d'accompagnements. Donc vous avez des poissons. Alors oui, ça peut paraître étrange, mais il y a du poisson le matin, donc ça peut être des petits poissons frits, ça peut être des petits poissons qui sont assez particuliers parce que ils ont presque pas de chair, ils sont recouverts d'œufs en fait, un petit peu comme du caviar si vous voulez, mais accrochés directement au poisson. Voilà. Et donc vous avez ça qui est mangé frit chaud, et vous avez aussi des petites espèces de petites salades de poissons, c'est des poissons qui sont pré-cuits et qui sont mangés froids. Un petit peu comme une salade, quoi, vraiment, c'est le principe. Vous avez aussi des légumes saumurés. Donc, la saumure, c'est un moyen de conservation où vous mettez, en fait, vos aliments dans du sel. donc ça donne un goût très particulier. Qu'est-ce qu'on a en saumure ici? Bah, on a par exemple de la morue, en accident, c'est ce qui se fait de plus avec de la saumure. Et vous avez aussi des pickles. Alors les pickles, ça vient de, bah, d'Angleterre, donc ce terme-là, et ça désigne à peu près tout ce que vous mettez dans du vinaigre pour le conserver. Donc un exemple très simple, c'est les cornichons. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Donc vous pouvez avoir des petits légumes différents, des petits oignons, des cornichons, etc. Et vous avez avec ça une soupe miso. Donc vous avez deux types de soupes, mais globalement vous avez la soupe miso qui est majoritaire. Et donc voilà, donc c'est un petit déjeuner qui est assez complet et qui est surtout très salé par rapport à ce qu'on a l'habitude de manger par ici. Ouais. Voilà, parce que oui, en France c'est le pain, donc c'est un peu sucré avec du beurre et de la confiture, ou et dans du chocolat ou du café ou du thé, donc c'est encore du sucre, ou alors c'est des cornflakes sucrés dans du lait. Enfin voilà, c'est, vous avez que du sucre en France en fait. Au petit-déj, ceux qui mangent des œufs, ils se font regarder comme si c'était des aliens.
Ah, c'est vrai en plus.
Hein. Et oui, et ouais, c'est voilà. Voilà, et donc à côté de ça, vous avez le petit déjeuner qui va être pour la semaine, et là vous avez deux versions, vous avez la version pour les plus jeunes on va dire, et pour les adultes qui mangent pas tout à fait la même chose. C'est les petits déjeuners à l'occidental qui sont préférés parce qu'ils sont beaucoup plus rapides à la fois à préparer et à la fois à manger. Donc vous avez les traditionnels cornflakes avec du lait, voilà, donc très très à l'américaine, vous imaginez c'est la même chose, hein, soit du lait, soit du fromage blanc, plutôt du lait hein, en général, mais voilà. Et après, vous avez aussi les petits déjeuners sucrés, donc qui sont notamment, vous voyez beaucoup dans les mangas où vous avez des slices of life au lycée, où vous mangez quelques toasts en fait, accompagnés d'une boisson, donc d'un jus de fruits en général, et où c'est juste, vous voyez toujours les élèves qui sont en retard, qui partent avec deux toasts, de manger deux toasts à la fois là, et qui tombent à chaque fois. Ben voilà, ça c'est le petit déjeuner occidental que vous avez pour les jeunes en général japonais. Et ensuite, vous avez les adultes. Qui eux vont manger quelque chose d'un peu plus complet du fait de leur journée de travail, et donc en général ils vont manger des œufs, voilà, pour avoir une base on va dire un peu plus nourrissante, avec vous allez avoir du café, toujours des jus de fruits aussi, et pareil vous allez avoir soit des toasts, soit un apport avec des féculents, donc après ça va dépendre plutôt pas mal des endroits. Donc vous avez par exemple des gens qui vont préférer prendre du riz avec un œuf cru dessus, qui fait aussi partie du plat traditionnel, du petit déj traditionnel, mais qui se fait très rapidement en fait. Donc vous allez avoir cette espèce d'entre-deux qui va être fait pour avoir quelque chose de nourrissant, très nourrissant le matin. Voilà. Et donc à côté de ça, bien sûr, pourquoi on a donc les petits déjeuners sont un peu plus nourrissants en général au Japon. Pourquoi? Parce que le midi, contrairement en France où on a vraiment cette tradition d'aller prendre le déjeuner, même si elle se perd de plus en plus. Vous avez beaucoup d'entreprises, vous allez à une cantine, vous allez à un restaurant, voilà, vous faites des dîners d'affaires, des choses comme ça. Au Japon, c'est quand même vachement plus rare. En général, vous avez juste le bento, qui est un repas qui doit être pris rapidement, sur le pouce au travail, donc qui est cuisiné traditionnellement par la compagne ou la fille le matin avant d'aller, avant de partir, et qui est qui tient dans une boîte. Donc on imagine bien que vous pouvez pas prendre une boîte qui fait 3,6 kg, donc vous avez quelque chose d'assez léger le midi. Et vous avez du coup après le soir un repas plus complet, et donc vous avez vraiment deux gros repas qui sont le matin et le soir, et un petit repas le midi à emporter.
Ouais, c'est pas comme chez nous où on a le petit repas, c'est le matin.
Ah non, c'est même plutôt en réalité l'inverse. En France, c'est souvent les gros petits déjeuners à base de croissants, de pain au chocolat traditionnel, je veux dire. La baguette de pain coupée en deux avec du beurre trempé dans le café ou dans le chocolat ou dans le thé. Voilà, le midi c'est un bon repas par exemple à un restaurant, donc ça va être un plat entrée-dessert. Et après vous avez le soir où normalement on nous conseille plutôt de manger des légumes, des féculents faut mieux éviter mais on peut en manger aussi, et une petite viande, mais c'est des repas qui sont assez légers.
Là on dirait le diététicien, tu sais.
Bah c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça. Même si vous allez dans des restaurants le soir, vous avez souvent des repas qui sont proposés, des restaurants qui ouvrent que le soir. En France il y en a quelques-uns, et vous avez souvent des repas qui sont beaucoup moins riches en calories que les restaurants du midi ou quand vous allez déjeuner. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. D'accord. Et puis c'est aussi dans la culture, quoi. Au Japon, c'est l'inverse. Et les repas du soir sont très riches.
C'est parce que le midi aussi, ils ont pas beaucoup de temps pour manger.
Exactement ça, ouais. C'est exactement ça en fait. C'est la culture qui fait ça. Ils mangent beaucoup le matin, et encore, ils ont pas trop le temps. Et donc ils vont manger quelque chose de riche. C'est pour ça que du riz. Voilà. C'est extrêmement nourrissant.
Après, ça peut vous rassurer, les Japonais sont très loin d'avoir un gros taux d'obésité.
Ah oui, non. Rassurez-vous, on est tranquille. Hein, ils sont loin des Chinois.
Les gros, c'est que dans les mangas, tu sais.
Non, mais le pire, c'est la Chine, par contre. La Chine, c'est autre chose.
Ok, bon, bah ça, c'est dans un autre dossier alors.
Voilà, c'est ça.
Ok, et allez, on l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Ça donne envie d'aller au Japon.
Rien voilà, moi j'ai envie de manger de la soupe miso maintenant. J'ai envie de prendre de la soupe miso.
Ah, une bonne soupe miso. Ouais. Bon, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié le dossier de notre cher ami Botan. Et maintenant, on se fait très rapidement aller une petite un peu de news manga et animé. Allez, on commence tout de suite avec tout d'abord les chiffres du premier film de la licence SAO qui est sortie au Japon il y a très 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 peu de jours. Donc au bout de deux jours, elle faisait 300 000 entrées, ce qui est relativement bien, voilà, pour un film d'animation au Japon. Donc voilà, on espère que ça va continuer comme ça.
C'est pas Your Name, mais ça part bien.
Hein ?
C'est pas Your Name, mais ça part bien.
Faut savoir que Your Name, au début, il a pas cartonné du feu de Dieu.
Ouais, mais ça finit après. C'est...
Oui, bah ça voilà, a plutôt bien fini. Ouais. Je continue avec Fairy Tail, donc du coup, qui va avoir droit à son film aussi, qui s'appelle Dragon Cry, qui sortira le 6 mai.
Et
d'ailleurs,
c'est la fin.
L'auteur a bien rappelé que ça allait bien se terminer. Alors après, il parle de la fin de Fairy Tail, et c'est vrai que comme par exemple à l'époque de Naruto,
Fairy Tail Shippuden.
Oui, est-ce qu'il y aura son fils aussi, voilà. Et ça, c'est
qu'il sera devenu Hokage, c'est bon.
Exactement. Et on continue avec alors un manga qui va être adapté en dessin animé. Et alors j'ai bien aimé l'histoire. C'est dans un futur proche, le gouvernement en fait, il décide du conjoint pour chaque personne, du moins qu'elle a 16 ans. C'est-à-dire que dès que vous avez 16 ans, et ben c'est le gouvernement qui dit en gros qui sera votre femme, inversement. Et apparemment, et ben, ça a réglé énormément de problèmes. Notamment ben, voilà, les personnes
qui vivaient,
voilà, le désespoir aussi, j'ai envie de dire. Je... Voilà.
Ça, c'est triste, mais...
Donc du coup, on a notre héros qui s'appelle Yukari. Il est amoureux de Misaki. Et alors qu'il déclare sa flamme, et ben, il reçoit la fameuse lettre du gouvernement avec le nom de sa femme qui s'appelle Rina.
Voilà.
Et le truc, c'est que contre toute attente, il va décider de sortir avec les deux. Et voilà la histoire. J'ai envie de dire que ça aussi, c'est une solution qui peut régler beaucoup de problèmes.
Voilà,
quoi.
Voilà, c'est ça.
Qui peut régler ou en créer.
Ouais. Bon, voilà. Il y a pas plus d'hommes que de femmes au Japon, non?
À voir. En tout cas, donc, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler.
Et genre ils disent comment ils font pour choisir telle personne. Ils choisissent pas au hasard, j'imagine.
Non, aussi. Alors en fait, à chaque fois c'est selon, tu vois, par exemple
tes goûts et
genre,
tout.
Exactement. Ah, le physique aussi, genre
ça va.
Un petit sort avec un petit.
Genre sinon
ça
avec une grosse.
Si t'es moche, tu sors avec une moche, c'est ça?
Voilà,
d'accord.
Un pauvre avec une riche, histoire de compenser.
Ouais, histoire de faire de créer un équilibre social.
Vous voulez dire que les vieux riches ils sortent avec des jeunes?
Ouais, c'est exactement ça.
Avec des jeunes,
ce n'est qu'un manga.
On va dire plantureuse.
Voilà, on va dire ça. Allez, donc c'est tout pour les news manga et animé. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit dossier manga. Un petit dossier manga et qui est très intéressant. Alors, je vous présente cette semaine un manga qui s'appelle Virgin Dog Revolution.
Oh là 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 là.
Qui sort chez les éditions Akata.
La couverture est géniale.
Voilà, et qui était vraiment, vraiment épique. Alors, l'histoire. Au début du manga, alors c'est vraiment énorme. Vous allez avoir une fille, vous voyez, qui se réveille et tout. Elle fait « Ouais, pourquoi moi, tu m'as pas réveillé ?» La mère qui dit « Vas-y, t'aurais dû mettre ton réveil. » Et là, elle va commencer à parler, vous voyez, genre, vous voyez les petites bulles, genre, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Elle dit « Ouais, salut, je m'appelle Anna, ça va, les cours, c'est trop chiant et tout. » Du coup, on se dit « Putain, ouais, c'est elle l'héroïne. » Et à la troisième page, on la voit, elle se fait bouffer. elle se fait bouffer par un chien. Qui l'attaque et qui la bouffe, mais bien en plus. Hein. Et j'ai trouvé ça déjà énorme au début. Et on va apprendre justement que ce chien est le bras droit d'une créature qui s'appelle Sadao. Et en fait, c'est un homme-chien. Voilà. Et en fait, cet homme-chien va déclarer la guerre au gouvernement japonais en disant que voilà, maintenant, c'en est fini de la suppression de l'homme et qu'il est temps que les créatures se réveillent. Le truc, en fait, c'est que apparemment, il a une sorte de pouvoir qui fait que les créatures lui obéissent plus ou moins. C'est-à-dire qu'au moment où il va faire cette annonce-là sur l'écran géant, on va voir les animaux qui vont commencer à se rebeller. Attends, on a même un poisson rouge qui est sorti de son aquarium. ça m'a fait vachement rire, quoi.
Il s'est suicidé, le pauvre.
C'est super drôle, franchement.
Est-ce que tu penses à tes tortues
Ça serait tellement drôle.
Imagine.
Elles font des techniques ninja.
Tu sais ça. Ils ne laissent pas traîner les nunchaku à côté.
Ouais, ils ne laissent pas traîner les pizzas non plus.
En plus, il y a les nunchuks qui sont juste en bas. Enfin bref, donc du coup, voilà la base de l'histoire. Et quand il va apparaître à l'écran, Alors déjà, faut savoir que il se pose pas de questions. Hein. Il a, alors il peut grandir ses griffes et là, ça devient un vrai Wolverine. Là, je parle de l'homme chien. Son chien de compagnie est un chien géant. Et en fait il contrôle plein d'animaux. Alors à la base il contrôle que les chiens, mais après il va développer son arsenal et il va même créer une sorte
les
d'école
loups, voilà. Lions,
non, alors, c'est pas mal parce qu'il va avoir un koala Wolverine. Il va avoir toutes sortes,
il y
a un
tigre. Est-ce qu'il va y avoir un paresseux?
Non, il y a pas de paresseux. Il y a un tigre, il y a
un cochon.
Non, il y a pas un cochon. Ouais. Enfin,
bref, il prend moins.
Il va avoir une vraie équipe quoi.
Tu fais manga sur les animaux, tu mets pas de cochon.
Et en fait, du coup, quand il va faire son message au niveau médiatique, parce qu'il va passer à la télé, il y a un mec donc qui a l'air un peu loser et tout. Il est chez lui, tranquille comme ça. Et il fait mais merde, je le reconnais et tout. C'est mon pote. Et on va et du coup, et ben lui, ça va être un peu genre le deuxième héros de l'histoire. C'est un mec qui a été en fait l'ancien meilleur ami d'notre héros. Et qui a beaucoup déçu le héros, on apprendra ça dans le manga comment. Ouais. Et donc du coup, ça va, son but, ça va pas être justement de faire du mal à son ami bête, homme chien. Ça va être de le sauver parce qu'il dit que c'est à cause de lui qu'il est devenu comme ça quoi.
D'accord.
Alors après bon, évidemment dans le manga, on va apprendre comment il est devenu un homme chien entre guillemets. Et mais franchement en fait, ce qui est passionnant dans le manga. C'est ce message en fait. En gros, évidemment, on sait très bien comment on est avec les animaux.
Oui.
Et évidemment, on se doute qu'il y a un jour, il pourrait très bien se voilà.
Ouais.
Mais bon, après,
il pourrait nous mettre l'amende.
Ça, c'est quand même la version manga, quoi.
Genre la planète des singes, quoi.
Mais ce qui est bien, voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Ce qui est bien dans le manga, c'est que déjà, moi, il m'a rappelé Gantz pour ceux qui l'ont lu dans sa violence. Là, c'est clair que voilà.
Ah ben, un chien qui bouffe une jeune lycéenne, page 3.
C'était un peu comme.
Pas mal.
Comme dans le début
bases,
de Gantz, vous aviez un homme poireau, un extraterrestre en poireau.
Il est vraiment dégueulasse.
Voilà. Et c'est un peu le même principe. Et l'histoire est assez simple. Elle va pas trop loin non plus. Comme je l'ai dit, c'est seulement en deux volumes. Ce qui permet justement d'éviter.
Ah, c'est une histoire finie en deux
volumes. Ouais, c'est une histoire finie. Et voilà, moi j'ai trouvé ça sympa. C'est pas le manga de l'année évidemment. Mais c'est une histoire assez fraîche. Ouais, et c'est drôle en plus. Parce que bon, d'un côté ça peut être très sérieux à certains moments. D'un autre côté ça peut être très 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 drôle. On voit que l'auteur s'est fait plaisir. Et on prend beaucoup de plaisir. Voilà, on prend beaucoup de plaisir justement à lire les aventures de ces deux amis qui sont pas du tout. On va dire sur le même ton, mais qui est vraiment marrant à lire. J'ai envie de dire que c'est un manga où on se prend pas la tête. Mais vous inquiétez pas, hein, quand je vous dis que c'est violent, à aucun moment vous avez de la peine pour les personnes qui sont massacrées. Okay. Elles sont juste là pour pour donner.
C'est pas un Shingeki quoi.
Ah non, c'est j'ai envie de dire c'est un manga qui est pas donné à sa petite sœur ou son petit frère, mais en même temps c'est pas un manga vraiment violent quoi. C'est plus un manga humoristique qu'autre chose quoi.
Ouais d'accord.
Et surtout
vu le postulat de base.
Ah mais et sur franchement quand vous voyez la tête du elle est pas mal quoi.
Il est magnifique.
Et en plus ça relance un peu, vous voyez ce débat, c'est-à-dire l'amour entre un animal.
Et
à l'être humain. Est-ce que c'est possible ou pas? Donc voilà, je vous laisse découvrir ça dans le manga Virgin Dog Revolution qui sort chez l'éditeur Akata. Et c'est tout. Et si je devais lui mettre une note, allez, je lui mettrais un 14 sur 20.
Voilà. Ah, donc c'est bien, mais ça casse pas trois pattes à un canard.
En fait,
c'est
moi j'ai toujours du mal aussi à les mangas qui sont courts à vraiment, on va dire,
poser un monde, un univers.
Moi j'aime bien quand c'est un peu plus creusé. Ouais. Mais après, je trouve que ça fait quand même plaisir de temps en temps d'avoir des mangas. On va dire une bonne idée cadeau, j'ai envie de dire. Voilà, si vous avez un ami qui pourrait être intéressé.
Genre un ami qui a un anniversaire bientôt, qui demandait une PS4, mais j'ai pas les moyens.
Ouais, par exemple. Ou un ami qui serait intéressé par le thème aussi. ça existe aussi quoi. Enfin bref, pour les amis tout court, j'ai envie de dire.
Voilà.
Allez, c'est tout pour le dossier manga. J'espère que vous avez apprécié. Et maintenant, on attaque avec les sorties manga. Donc du coup, on va commencer tout de suite avec un magazine. C'est l'Anime Land numéro 214. Alors au sommaire, vous aurez du Ghost in the Shell Standalone Complex, l'homme au service de la machine. Vous aurez du Naruto avec un dossier final, le Rasengan final. Vous aurez un dossier sur Cabaneri aussi, of the Iron Fortress, donc du coup des mêmes auteurs que l'Attaque des Titans et qui a eu un énorme succès au Japon et même dans le monde. Hein,
c'est du même auteur.
C'est la même.
Ah oui, maison.
C'est même studio.
Putain, beaucoup de similitudes.
On continue avec les sorties manga avec sortie Glénat avec Tokyo Ghoul volume 7, Tokyo Ghoul Ré ou comme certains l'appellent Tokyo Ghoul Rémi.
Oui.
C'est la nouveauté. Alors Sen, la célèbre romancière qui vient de publier Le Roi Billet, annonce lors d'une conférence conférence de presse qu'elle est une goule et que son dernier ouvrage est destiné à ses semblables. L'ouvrage s'attaque indirectement aux structures du pouvoir en place et sème lentement le doute au sein de la population. On continue avec Delcourt Tonkam avec Ex-Arm numéro 4. Pour retrouver un corps et sa mémoire, Akila décide de collaborer avec la collection anti-Ex-Arm. C'est alors que pour élucider l'attaque d'une maison close de sexoïdes, il s'introduit dans la DS de Yokosuka. Mais Elmira, l'androïde qu'il rencontre, utilise l'ex-arm de l'ancien dictateur Maru et essaye de s'enfuir avec un bipode. La DS n'est plus qu'un champ de bataille lorsque tout d'un coup un nouveau soldat apparaît. Ensuite, les éditions Soleil.
Les éditions Soleil, donc avec Be My Slave, volume 1.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Sois mon esclave.
Okay. Je demandais où.
L'intello Asusa Yano est secrètement amoureuse du beau Karu Aota, mais il est résolument inaccessible pour elle. C'est alors qu'ils entament une relation secrète. N'arrivant pas à le repousser, Asusa devient petit à petit une véritable esclave pour lui.
Ensuite, édition Pika.
Avec Freaky Girls, volume 1. Tetsuo Takahashi est professeur de biologie au lycée Shibasaki, où les para-humains côtoient les humains. Le lycée possède même une professeure qui est une succube. Le jeune prof est passionné par ces monstres qu'on appelle des demi. C'est l'occasion rêvée pour lui de les étudier de plus près. Il observe avec bienveillance et apprend à connaître ses petits ados pas vraiment comme les autres.
D'accord, édition Kazé.
Avec Rikudo, la rage au point, volume 1. Riku Azami est un jeune garçon dont la vie est placée sous le signe de la tragédie. Il demande à son sauveur de lui enseigner la boxe afin de pouvoir défendre ce qu'il aime. Kiyosuke refuse et l'envoie chez Shinji Baba, son ancien entraîneur de boxe. Shinji accepte de l'entraîner car il décèle du potentiel chez Riku. Quelques années plus tard, Riku continue à s'entraîner et s'apprête à passer l'examen pour obtenir sa licence de boxe professionnelle.
Ok, on finit avec l'édition Kana.
Sarah Fauzien, volume 9. Alors que la brigade Geki tente de sauver ses membres qui ont été pris en otage, elle se retrouve dans une situation désespérée face à l'imposante puissance du vampire noble Crowley. Yushiro participe à l'opération de sauvetage, mais Glenn est gravement blessé et il est fait prisonnier à son tour.
Ok, c'est tout pour les sorties. Wouhou! Et vous êtes toujours sur Combat FM pour essayer de mettre l'émission Tokyo. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'attaquer avec le fameux jeu de
Tokyo Yume.
Alors, on va faire l'équipe de gauche. On va juste prendre notre ami Kulodo avec Capi.
Ah, on va pas séparer le
reste
couple.
Du monde. Voilà, je vais dire. Prenez goutte de Dieu avec vous, sachant qu'il est nul.
Voilà. Alors, c'est un 2 contre 2 en fait.
La question.
Sauf si ça parle de
Dieu. Attention, va être énorme. Je veux un manga ou un animé.
Attends, pause, qui commence ouais.
C'est vous.
Ok, merci.
Dont le personnage principal est un animal. Allez, c'est parti.
Le personnage principal, c'est un animal. Bah, oui. Virgin Dog Revolution.
Ouais.
À vous. Sherlock Holmes.
Ouais.
Ouais, ça
va. 10, 9, 8.
Ouais, j'en ai un autre.
7, 6.
Moi, j'en ai un.
Le Roi Léo.
Ouais.
Vas-y. Est-ce que Dragon Ball ça marche?
Non,
c'est pas un humain. C'est pas un humain.
Comme il a dit un animal.
Allez, ouais. Vu que c'est un singe. J'ai accordé un homme chien. Donc ouais. Un homme singe.
Un homme singe, ouais. Ça marche.
Allez, j'accorde. Merde. 10, 9. Alors, j'adore Capi qui ne réfléchit pas, mais il te regarde, tu vois, depuis tout à l'heure.
J'en ai un. Kiroro.
Ouais.
C'est une grenouille.
Chi, le chat là.
Ouais.
Putain, merde.
Bien joué. 10.
Choubi.
9. C'est quoi ce
truc? C'est un truc. Mais c'est qu'un chat aussi.
Ah ouais, je connais pas.
Ah putain, tu fais chier.
Bah, excuse-moi d'avoir du goût. Ouais.
Putain, 10. Oui.
9.
Nintendo, tu le comptes ou pas?
Non.
Non.
Ah,
non,
c'était un humain.
Ah,
on l'avait fait une fois ça. Ouais. On avait utilisé ce truc-là. 8. Tu l'avais dit.
6. 5. 4.
Ah, Ori and the Blind Forest.
Ouais.
Bien vu.
Yoshi Island, ça compte?
Ouais. Bien vu.
Oh, c'est pas un animal,
Yoshi.
Jouer.
Ah, Yoshi, c'est un dinosaure. Ah, ouais, si c'est un Spiro,
c'est pas un animal non plus.
Ouais, ça va.
10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oh,
voilà.
Victoire incontestable et l'équipe des gouttes de Dieu. Allez, voilà. C'est parti.
Bravo les gouttes de Dieu. Bravo les gouttes de Dieu.
Donc voilà. Non, mais bien, victoire, défaite, j'ai envie de dire de pas de la team hein, mais de Kudo. Il y a eu un Donkey Kong. Il y a eu un Donkey Kong. Allez, la revenue de se quitter. Mais on se retrouve dans une semaine. Allez, donc du coup, on remercie toute l'équipe, c'est-à-dire Botan, Haro, les gouttes de Dieu, même s'il a rien fait. Si, il a parlé de Yoshi Island. On remercie Kulodo et notre cher ami Mangaka. notre cher ami Capi. On se retrouve la semaine prochaine. On remercie aussi évidemment nos partenaires et tous nos éditeurs. Et n'oubliez pas, Tokyo Mai à jour,
Tokyo Mai toujours.
Allez, bye bye, ciao ciao.